voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Michel Alberganti rencontre Françoise Barré-Sinoussi. Ce soir, une Française prix Nobel.
Françoise Barré-Sinoussi, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes le 6 octobre 2008. 25 ans ont passé depuis votre découverte du VIH, le virus du sida, et vous êtes alors en mission au Cambodge. Pour quelle raison ?
En fait, le Cambodge, nous avions une collaboration avec le Cambodge depuis les années 1995. Qui s'est concrétisé par une coopération officielle à partir de 2000, et à partir de 2000, j'ai coordonné tous les programmes sur le VIH-SIDA avec le Cambodge, avec le ministère de la Santé au Cambodge, et donc j'étais sur place dans ce cadre et en réunion pour parler d'un programme en cours de recherche sur les patients co-infectés tuberculose et VIH.
Et donc c'est à ce moment que vous recevez un coup de téléphone improbable, si loin d'ici, un coup de téléphone de Daniel Messager, qui est journaliste à France Inter, et qui vous appelle pour vous annoncer la nouvelle que vous ne connaissez pas. Vous avez obtenu le prix Nobel de physiologie et médecine. Et quelle est alors votre réaction ?
Ma première réaction, ça a été de dire à Daniel, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est encore une erreur, j'y crois... Pas du tout, et à vrai dire, ça a été ma première réaction, de dire c'est une erreur. Donc je n'y ai pas cru. J'ai raccroché, et là le téléphone s'est remis à sonner, et les participants à la réunion dans la salle qui, bon, ont bien vu qu'il se passait quelque chose, ils m'ont demandé ce qui se passait, je leur ai dit, et quand le téléphone a ressonné, ils m'ont dit, non, Françoise, là, passe-nous ton téléphone portable s'il te plaît. Et en fait, c'était confirmé avec d'autres appels qui avaient vu, je suppose, la dépêche de l'agence France Presse.
Ça veut dire que vous n'étiez pas du tout dans cette attente que certains scientifiques ont chaque année de l'obtention de ce prix Nobel ?
Absolument pas, absolument. Bon, j'étais, d'ailleurs, j'avais complètement oublié la date des nominations des Nobel. Pour moi, j'avais pas du tout en tête que je puisse recevoir un jour ce prix.
Pour quelle raison ? Alors que quand même, il y avait souvent, il y a quand même des signes annonciateurs ou des réflexions, des favoris qui circulent. Ça, c'était pas le
non,
cas.
Non, ça circule pas trop. Hein, je veux dire, c'est très confidentiel. Hein. Donc il y a
les
y a
débats
pas de,
sont confidentiels.
Les débats sont confidentiels et il y a rien qui sort. À ma connaissance, pour en avoir parlé avec d'autres qui ont eu le prix Nobel, jamais ils ne le savaient non plus, ni avaient eu des échos à l'avance. Il y a des personnes qui l'attendent, qui l'espèrent, mais on ne sait jamais à l'avance. Donc pourquoi je n'y croyais pas ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, et je pense que peut-être la plus importante, c'est que pour moi le VIH-SIDA c'est pas terminé. Que c'est toujours vrai d'ailleurs aujourd'hui, parce que même si on a découvert le virus, même si y a un traitement qui permet aux personnes de vivre avec le VIH, ce traitement c'est un traitement à vie pour ces personnes, et on sait que s'ils arrêtent le traitement il y a un échappement et le virus repart, et on n'a pas non plus, on a beaucoup d'outils de prévention, mais on n'a toujours pas de vaccin. Et donc, je n'imaginais pas qu'on puisse donner justement un Nobel si on n'avait pas obtenu ces outils supplémentaires.
Et le fait de l'obtenir, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ?
Alors, beaucoup de surprises, bien sûr, d'une part, et d'autre part, comme il y a un certain nombre de collègues cambodgiens et également des représentants de patients cambodgiens qui sont tous arrivés, certains avec des fleurs, ça a été un sentiment de c'est pas mon Nobel, en fait c'est notre Nobel, c'est réellement une reconnaissance partagée pour toute la communauté VIH-SIDA qui se bat depuis des années pour essayer justement de trouver des solutions. Voilà, ma réaction ensuite, ça a été celle-là.
Voilà, on est 25 ans, je le rappelle, après la découverte du virus. Et quelques mois auparavant, vous avez perdu votre mari, Jean-Claude Barré, technicien du son à Radio France, qui est décédé juste avant et qui n'a donc pas pu connaître ce prix.
Exactement, il était décédé en février de la même année. Et c'est vrai que ma pensée a été aussi vers lui, parce que lui croyait par contre qu'il y aurait un jour un Nobel, et contrairement à moi, et donc on n'en parlait plus, puisque c'était source un petit peu de non pas de conflit, mais de tension, on n'était pas d'accord sur le résultat, et c'était lui qui avait raison.
Alors le 10 décembre 2008, puisque c'est la tradition après l'annonce au mois d'octobre, eh bien il y a la remise des prix à Stockholm, et pas moins de 3 Français sont récompensés cette année-là, parce qu'en plus de Luc Montagnier, avec lequel vous partagez le prix Nobel, il y a Jean-Marie Le Clézio qui reçoit le prix Nobel de littérature, et vous êtes à ce moment-là la seule femme primée. Comment se déroule la cérémonie ?
Alors déjà, y a la cérémonie de remise de prix, il y a ensuite le dîner officiel, mais en fait c'est toute une semaine entière, la semaine des Nobel, une semaine de rencontres avec les médias, une semaine de conférences, une semaine de rencontres aussi dans les collèges, dans les lycées, avec les jeunes. Donc c'est une semaine hyper, hyper chargée. Mais la cérémonie elle-même de remise du prix... c'est quand même extrêmement impressionnant de se retrouver face au roi et à la reine, et d'avoir chacun appelé. Alors bien sûr, il y a toute une répétition aussi avant, justement, parce qu'il y a un protocole bien cadré. En fait, tout ça est hyper bien cadré, et à vrai dire. Et alors bon, après le dîner dans la mairie de Stockholm, c'était pour moi hyper impressionnant, parce que comme j'étais la seule femme, comme vous venez de le dire, forcément j'avais à descendre ce grand escalier pour aller dans la salle de dîner au bras du roi, avec un reblon, ce qui n'est pas non plus quelque chose que j'ai l'habitude, forcément.
Une robe particulière.
Une robe tout à fait particulière, puisque, étant déjà en contact avec Sidaction et Pierre Berger, Pierre Berger m'avait fait avoir une robe Saint-Laurent. Donc c'était effectivement quelque chose de tout à fait particulier. Quand je dis la robe, il n'y avait pas que la robe, il y avait aussi les chaussures, tout ce qui allait ensemble, et les chaussures, des talons extrêmement hauts que je n'ai pas l'habitude de porter. Je n'avais qu'une angoisse, c'est de pas descendre cet escalier au bras du roi sans tomber. Et c'était assez impressionnant, et de voir tout ce monde également en bas qui nous attendait. Donc mais j'ai réussi à contrôler en fixant mon regard sur un visage connu dans le bas de la salle, qui était en fait le visage de Michel Kazatchkine. C'est celui que j'ai vu, et je me suis dit, je fixe mon visage sur lui et je descends cet escalier en essayant de pas tomber. Donc tout s'est très bien passé. Mais au total, si je vois cette semaine des Nobel qui est organisée, mais alors c'est impressionnant de la façon dont c'est organisé. Moi, j'ai eu l'impression d'être comme sur un nuage. J'ai eu l'impression d'une semaine totalement féerique. Tout était comme si c'était dans un rêve. Et j'avais pas l'impression de vivre une réalité. À tel point qu'aujourd'hui, je dis, j'aimerais bien retourner à Stockholm, non pas pour recevoir un deuxième prix Nobel, ça certainement pas, mais justement en tant qu'invité, pour réellement pouvoir vivre cette cérémonie et ce dîner en tant qu'observateur, et réellement pouvoir l'apprécier, parce que là, il y a quand même un peu de stress, et puis de se dire, bon, est-ce que tout ceci est vrai ou pas ?
Alors, c'était vrai, et vous partagez ce prix Nobel avec Luc Montagnier. Luc Montagnier a joué un rôle important, c'est lui qui dirigeait l'unité dans laquelle se trouvait le laboratoire où vous avez découvert le virus du sida, et également co-lauréat Harald Zurhausen, qui est le découvreur du papillomavirus responsable du cancer du col de l'utérus, et dont le vaccin avait été mis sur le marché peu avant, en 2006. Alors parmi les lauréats de ce prix Nobel, il y a un grand absent, qui est le directeur de votre laboratoire, Jean-Claude Sherman, avec qui vous avez travaillé dès votre doctorat et ensuite en tant que chercheur. Alors comment réagissez-vous à ce choix du comité Nobel de ne pas primer Jean-Claude Sherman ?
Oh, ma première réaction, ça a été de la tristesse. De la tristesse parce que, bon, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que moi, personnellement, à titre personnel, je ne peux que le regretter. Maintenant, je ne sais pas quelles ont été les raisons de cette décision, puisque c'est toutes les délibérations par le comité des Nobel est totalement secret et gardé confidentiel pendant 50 ans. Donc je n'en connais pas les raisons, mais à titre personnel, c'est vrai que je l'ai beaucoup regretté.
C'est d'autant plus surprenant que vous êtes la collaboratrice de Jean-Claude Sherman en premier lieu, puisque c'est avec lui que vous avez travaillé, et que, en revanche, Luc Montagnier est au-dessus et donc en collaboration moins directe avec vous.
Bah écoutez, j'en sais rien, parce qu'une fois de plus, seul le comité des Nobel sait les raisons. On peut tout évoquer, mais ça n'est qu'à l'état d'hypothèse. C'est un scientifique qui parle, parce qu'une scientifique, les hypothèses, si elles ne sont pas vérifiées par des expérimentations et des résultats, ça, c'est même pas la peine d'en parler. Simplement, si vous regardez l'article publié dans Science au mois de mai 1983, peut-être qu'ils sont simplement basés sur le premier auteur et le dernier auteur de l'article. On peut imaginer des choses comme ça. Hein.
Mais Jean-Claude Sherman était signataire également
de cet article. Il était signataire de cet article, mais pas en premier auteur ni en dernier auteur. Il était, je ne sais plus s'il était en deuxième. On sait toute l'importance qui est prise dans l'évaluation scientifique de la position dans les publications. Donc, est-ce que c'est la raison ? Je n'en sais rien. Une fois de plus, je n'en sais rien. C'est une hypothèse, puisque vous me demandez de donner des explications que je n'ai pas.
À l'époque, vous avez réagi en manifestant cette incompréhension, ou pas ?
J'en ai parlé avec des membres du comité Nobel, bon, qui m'ont répondu ce que je viens de vous dire. De toute façon, les délibérations sont confidentielles et secrètes. Voilà, c'est tout ce que je peux faire.
Alors, un arrière-plan de cette décision, il faut rappeler qu'il n'y a que 3 lauréats maximum pour un prix Nobel de physiologie et médecine, et que donc c'était aussi ce nombre qui a peut-être joué un rôle dans le fait que Jean-Claude Sherman n'a pas été primé. Mais il y a en arrière-plan donc une autre polémique qui est celle qui a opposé Luc Montagnier et Robert Gallo, le chercheur américain qui a revendiqué la découverte du virus du sida et qui a même obtenu en 1987 la reconnaissance de son statut de co-découvreur dans une négociation avec l'Institut Pasteur et le partage des revenus du brevet sur le dépistage du sida. Alors comment avez-vous vécu cet affrontement entre Luc Montagnier et Robert Gallo ?
Alors c'est une affaire dont j'ai toujours eu et je reste à ne pas vouloir en parler. Pas vouloir en parler parce que c'est totalement ridicule de relancer une polémique qui n'existe plus. Que c'est une affaire, vous parlez de Luc Montagnier et Robert Gallo, je pense que pour moi, je dis plutôt c'est une affaire d'institution qui regardait l'Institut Pasteur d'un côté et les instituts nationaux de la santé aux États-Unis. L'affaire est close. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était regrettable, ce genre d'affaire, donc je préfère ne pas m'exprimer sur cette question.
Alors revenons au prix Nobel de 2008, donc, que vous avez reçu. Cela rapporte combien un prix Nobel de physiologie et médecine ?
Alors ça dépend du nombre de personnes, bien sûr. Là, pour le prix Nobel qui nous concerne, il y a eu la moitié de la somme qui est revenue à Sourhausen et la moitié restante qui a été divisée en deux pour Luc Montagnier et pour moi-même. Ce qui correspond grosso modo à une somme de 200 000 euros.
Pour chacun de vous deux.
Pour chacun de nous deux. Sachant que sur cette somme doit être déduit les frais correspondant aux invitations que l'on fait pour assister à la cérémonie.
Alors vous avez obtenu ce prix Nobel en tant que femme, et c'est là aussi une partie peut-être de l'exploit, car le nombre de femmes primées par les Nobel est très réduit par rapport au nombre d'hommes.
Ça, c'est vrai, mais ça, je dirais que c'est représentatif un petit peu de la représentativité des femmes dans la vie professionnelle, globalement d'ailleurs, je ne crois pas que ça soit spécifique au milieu de la recherche. Quand on regarde dans les positions les plus élevées, les femmes sont souvent moins présentes. Alors ça a bien évolué quand même, y compris au niveau des Nobel, puisque on voit au cours de ces dernières années de plus en plus de femmes qui reçoivent cette haute distinction. Et globalement, quand on voit aussi, si on parle de la France, moi, quand j'ai commencé dans les années 70 à Pasteur, je crois qu'il y avait probablement moins de 5 femmes professeurs à l'Institut Pasteur. Or, on est dans une situation aujourd'hui, on n'est pas loin, si on n'y est pas, aux 50% de femmes qui sont professeurs. Donc les choses ont bien évolué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des efforts à faire, mais il y a une évolution très nette, et je pense que cette évolution va progressivement se ressentir aussi sur les nominations des Nobel.
Alors il y a un gros retard à rattraper, hein, puisque le nombre de femmes primées est autour de 50, et sur un total de plus de 900 lauréats.
C'est vrai, mais, c'est vrai, mais le retard, il était énorme aussi, je vous dis, entre les années 70 et maintenant. Donc oui, le retard est immense. Moi, je dis toujours aussi que accorder une distinction à une femme, faut pas accorder une distinction à une femme parce que c'est une femme. Faut que ça soit pour des raisons équivalentes. Je crois que non, faut pas non plus faire une discrimination que j'appellerais négative et qui se veut positive, à savoir on va augmenter le nombre de femmes, mais si c'est pour dire je prends un quota parce qu'il faut, il nous faut absolument des femmes dans un conseil d'administration par exemple, non, moi je veux bien qu'on prenne les femmes et qu'on soit à égalité, à l'équité, mais à condition que ça soit à compétence égale et à reconnaissance égale.
Donc là, vous prenez la suite de Marie Curie, qui a été primée, elle, très tôt, paradoxalement, par rapport à ce manque de femmes
pas dans le domaine de la médecine et de la physiologie.
Voilà, donc c'était la chimie et physique. La physique, hein, puisqu'elle l'a eu, elle a eu deux fois le prix Nobel. Et ensuite, il n'y a pas eu beaucoup de femmes françaises primées depuis cette date, c'est-à-dire ce début du XXe siècle.
Tout à fait.
Donc vous, dans votre carrière, est-ce que vous avez ressenti ce plafond de verre? Vous en avez parlé, mais dans votre propre carrière, est-ce qu'il a été perceptible? Vous avez franchi à peu près tous les échelons jusqu'à être responsable de laboratoire, donc les postes importants. Est-ce que ce phénomène a été sensible pour vous?
Bien sûr, je l'ai ressenti, je veux dire, comme toutes les femmes et tous les jeunes chercheurs. Je me module souvent parce que lorsqu'on est jeune, on arrive du mal à savoir, c'est est-ce que c'est parce qu'on est une femme ou est-ce que c'est parce qu'on est jeune? Il faut un petit peu balancer tout ça, équilibrer tout cela. Je pense que quand on est jeune, c'est vrai que on est toujours observé en disant bon, ce qu'il nous présente ou ce qu'elle nous présente est intéressant, mais un peu jeune, est-ce que ça va être confirmé, pas confirmé? Faut lui laisser le temps de faire ses preuves. Ça, on l'entend beaucoup dans le domaine de la recherche. Alors en plus, quand on est une femme, le côté, est-ce qu'on prend au sérieux autant les propos d'une femme que les propos d'un jeune homme, je n'ai pas l'impression, c'est vrai. En tous les cas, c'était pas le cas, me semble-t-il, dans les années 70 ou même dans les années 80, lorsque j'ai présenté pour la première fois, par exemple, en 83, la découverte, l'identification du virus. Néanmoins, bon, il y a quand même une certaine attention, parce que lorsque j'ai présenté en mai 83 les résultats, je peux vous dire que quand même, il y a un certain nombre de messieurs qui sont venus me voir en me disant est-ce que vous avez le temps de venir à Atlanta, ou est-ce que vous avez le temps de venir nous faire une conférence pour qu'on en parle un peu plus. Donc il y avait quand même une certaine attention. C'est un mélange, je dirais, de un peu méfiance et quand même de l'attention. En se disant probablement, attendons de voir ce qui va se passer après.
Donc à l'époque, en 1983, vous êtes quand même encore une jeune chercheuse qui travaillait sur ce sujet du sida depuis 5-6 ans, et pas tellement plus. Donc c'est une découverte qui est à la fois jeune dans votre carrière, et puis assez rapide aussi.
Jeune, ça dépend. Et la jeunesse, quand on a 35-36 ans, c'est pas forcément non plus une première jeunesse. Je pense la période de sa carrière où, et c'est vrai d'ailleurs pour les hommes comme pour les femmes, où il y a peut-être le plus d'épanouissement en tant que résultat scientifique. Et il y a d'ailleurs une petite étude simplement d'analyser justement quel a été l'âge des chercheurs qui ont eu un prix Nobel au moment de la découverte. Et l'âge moyen, en fait, c'est 35 ans pour les hommes et 36 ans pour les femmes. Donc en fait, j'étais juste dans la moyenne. Et je pense que c'est dans l'évolution d'une carrière scientifique, il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique, puisque cette carrière, d'abord, je compare souvent cette carrière de chercheur à finalement l'évolution d'un enfant. Quand il commence avant sa thèse, il est dans un laboratoire où on lui apprend à marcher. Au moment où il passe sa thèse, il sait marcher. Juste après sa thèse, il faut qu'il commence à se débrouiller tout seul. Et puis il arrive comme ça vers 30 ans, où là, d'un seul coup, il commence à mener sa vie, il commence à avoir sa propre carrière, sa propre vie, en toute autonomie vis-à-vis des autres. Et là, les résultats arrivent. Et puis après, il commence à former les autres. Il commence aussi à être un petit peu la tête sous l'eau avec beaucoup de charges administratives, de recherche de financement, de faire des rapports d'activité pour les financements que il a, mais aussi des rapports pour être évalué en tant que chercheur lui-même, évaluation de l'équipe, évaluation des jeunes chercheurs avec qui il travaille. Donc tout ça, c'est une partie très lourde, mais pendant ce temps-là, ils ne sont plus à la paillasse, comme on dit. On commence à être derrière un bureau, et ceux qui font les expériences, ce sont les plus jeunes. Donc c'est par palier, finalement, la carrière d'un chercheur.
Vous nous avez expliqué l'importance qu'avait la publication de 1983 et l'ordre de citation des participants à cette publication. Comment cela est-il décidé ? Est-ce qu'il était absolument certain que vous seriez en première position dans cette liste? Et comment ça se passe? Quelle est la mécanique qui aboutit souvent à ce que ce soit des responsables de laboratoire qui soient mis en avant et non pas peut-être les chercheurs qui ont été les acteurs véritables de la découverte?
Souvent, mais il n'y a pas de règles. Et en général, c'est vrai que ça se discute un petit peu avant les publications. Mais globalement, le premier auteur, c'est celui qui s'est le plus investi en tant que obtention des résultats, expérimentation, obtention des résultats, etc., qui a participé aussi, qui a contribué à la rédaction du papier, etc. Le dernier auteur, c'est le responsable général du laboratoire. Ça, c'est une règle à peu près générale, mais il peut y avoir des variations. Bien évidemment, ça arrive des fois où on met deux premiers auteurs, quand il y a eu une contribution qui est difficile de séparer entre deux jeunes chercheurs. À ce moment-là, on demande qu'il y ait un double nom en tête du papier. Mais voilà, c'est une règle, il y a un certain nombre de critères qui sont bien définis quand même, hein, quand on regarde les journaux. L'implication justement des auteurs dans un journal scientifique, il suffit de regarder les journaux scientifiques et ils définissent bien quel doit être le rôle de chacun.
Il y avait combien de co-signataires?
Voilà, je ne sais plus comme ça de tête. On était plusieurs, parce qu'il y avait Willy Rosenbaum, il y avait Françoise Brun-Bessinet, il y avait Sophie Chamaret, je crois aussi, une technicienne de chez Luc Montagnier. Il y avait Jean-Claude Sherman, bien évidemment. Il y avait aussi une technicienne ou deux techniciennes qui travaillaient avec Jean-Claude Sherman et moi-même, Marie-Thérèse Nugère et Françoise Rey, qui a d'ailleurs été à Stockholm aussi avec nous, puisque en fait les auteurs du premier papier étaient tous à Stockholm, sauf Jean-Claude Sherman qui, pour les raisons que vous imaginez, n'a pas souhaité venir, mais voilà.
Est-ce que justement Jean-Claude Sherman aurait pu être cité en premier dans cette publication, en premier comme auteur?
C'était lui, je dirais que la position se discutait plus en tant que dernier auteur.
Ou en tant que dernier auteur, oui, effectivement.
Parce que c'était pas lui qui faisait les expériences au jour le jour.
Ça c'était vous.
Ça c'était plutôt moi à l'époque.
Et donc il aurait pu être à la place de Luc Montagnier en tant que dernier auteur.
Ça aurait pu se discuter, oui. Mais bon, ça, dans hiérarchiquement et peut-être encore plus à cette époque-là, ça se discutait pas réellement puisque le laboratoire de Jean-Claude Sherman était administrativement sous la tutelle du laboratoire de Montagnier. Donc Montagnier était le responsable.
Quel a été le rôle de Luc Montagnier dans cette
Il a été d'abord c'est lui, mais il a reçu le premier échantillon, c'est lui qui l'a mis, j'allais dire en culture quand l'échantillon du premier patient est arrivé. À partir de là, bon, il y a eu aussi des gens de son équipe qui ont participé à une partie des travaux, notamment des techniciens.
Merci Françoise Barré-Sinoussi, nous vous retrouverons demain soir pour la dernière émission de cette A Voix Nue et nous parlerons de votre engagement dans la lutte contre le sida en France et dans les pays en développement.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Alberganti avec Françoise Barré-Sinoussi. À Voix Nue, réalisation Delphine Lemaire, prise de son Yann Frécy, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.